Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette nouvelle série. Nous arrivons à l'étude numéro 2. Et la série, elle est intitulée « Nous gouvernerons et régnerons avec Jésus-Christ » parce que nous sommes les enfants de la lumière. Le titre pour aujourd'hui sera « Le miracle de la lumière ». Parce que la lumière a son origine en Dieu, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, il est la lumière qui possède toutes ses attributs. C'est Albert Einstein qui a développé la théorie de la relativité dont nous devons maintenant parler. Dans sa célèbre étude sur la lumière, il arriva à ses conclusions stupéfiantes. Premièrement, la lumière est constante. Deuxièmement, la lumière est la seule constante. Et troisièmement, la lumière est la seule chose qui est invariable. Cette théorie a été reçue par les hommes de science comme étant la plus grande découverte de tous les temps dans le domaine scientifique. Mais l'apôtre Jacques, il avait déjà donné au monde cette vérité quand il a dit « Tout ce qui nous est donné de bon est tout don parfait descendant en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ni ombre de changement. » Saint Jacques, chapitre 1, verset 17. Ce verset est remarquablement révélateur. Il confirme cette vérité dont nous parlions dans le CD numéro 1, que la lumière provient de Dieu. Dieu, c'est lui le Père, l'auteur, le parent de toute lumière. Voyons maintenant quelle est la différence entre phos, lochnos et lampo. Le mot lumière, tel que nous le voyons dans l'épître de Jacques, ce mot vient du grec phos, briller, se manifester, surtout par le moyen de rayons lumineux, tels que aussi le feu. Il y a dans le Nouveau Testament trois mots qui signifient lumière, phos, lochnos et lampo, et leurs significations sont très différentes. Phos n'est jamais allumé, donc n'est jamais éteint, mais lochnos ou luchnos est allumé par des mains humaines, telles qu'une lumière fabriquée par l'homme, une lampe, une bougie, etc. Et elle peut être éteinte. Lampo, cela signifie rayonner, irradier, éclairer, briller, reluire et illuminer. Le mot « lampe » provient donc de ce mot. Jacques décrit « phos » la lumière comme étant sans variation ou ombre de changement. C'est là l'attribut de la lumière véritable dont la seule source, c'est en Dieu. Elle est constante, la seule constante, elle seule, et invariable. Notez Malachie, chapitre 3, verset 6, ainsi que Hébreux chapitre 13, verset 8. La nuit se dégage de la lumière. Ça veut dire ça. La nuit veut dire se dégager de la lumière. Lorsque Dieu divisa et sépara la lumière d'avec les ténèbres et l'aube de la création, il l'a fait une fois pour toutes. Souvenez-vous que nuit, cela veut dire se dégager de la lumière. En Dieu le Père, des lumières. Il est le Père des lumières, Dieu. Et l'apôtre Jacques s'exprime ainsi qu'il n'y a pas de variation ou ombre de changement en Dieu. Notez Jacques, chapitre 1, verset 17. En fait, Albert Einstein a découvert Dieu en découvrant cette vérité concernant la lumière. Autre chose miraculeuse découverte par Einstein au sujet de la lumière, c'est qu'elle est éternelle. Il dit, « Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, vous vivriez éternellement, puisque vous iriez plus vite, oui, plus vite que le temps. » Einstein a dit cela parce que la lumière voyage à la vitesse incroyable de 300 000 km par seconde. Quelqu'un a fait cette comparaison facilitant pour nous la compréhension d'une telle vitesse. Par exemple, si vous tirez un coup de fusil dont la balle voyage à la vitesse de la lumière, elle ferait 7 fois le tour de la Terre avant que vous n'ayez eu le temps de retirer votre doigt de la gâchette. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. La lumière est éternelle. Elle est également éternelle, car elle est la source de la manifestation de la vie. La création commença avec la lumière. La lumière ne changea jamais, elle ne meurt jamais. Elle ne peut être éteinte et elle ne le pourra jamais. Elle ne cessera d'exister. Ce que a fait dire à notre ami Einstein, si l'on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, eh bien on vivrait pour toujours. L'apôtre Paul aussi comprenait la vérité de l'éternité de la lumière. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 15, il écrit au sujet de Jésus-Christ qu'il est le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que lui seul possède l'immortalité, habitant la lumière inaccessible. Ici, le mot d'origine grec pour lumière est phos. Aussi, cette lumière, qui n'a jamais été allumée et qui ne pourra jamais être éteinte, c'est la lumière éternelle. Je répète, ça, c'est la lumière éternelle. Plus de 2000 ans avant la découverte par Einstein de l'éternité de la lumière, l'apôtre Paul avait déjà dit à Timothée qu'elle était immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne mourrait ou ne pourrait jamais mourir, athanasia en grec. Le mot athanasia signifie non seulement immortalité, mais il est aussi utilisé pour parler du corps glorifié et ressuscité du croyant dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 53 et 54. Il ne s'agit pas simplement de la vie, mais il s'agit d'une qualité toute particulière de la vie divine, c'est-à-dire de la gloire et de la résurrection. Christ est monté à la droite du Père. Il demeure dans cette lumière éternelle, car il est éternel. Kenneth Hagin a dit, « Lorsque la science a découvert l'infini du temps, on a découvert l'éternité et Dieu. » Nous sommes donc des enfants d'éternité, parce que nous avons découvert Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est celui qui est Elohim dans la Genèse au chapitre 1er. On peut aussi donc l'appeler Elohim. Einstein, qui disait que si l'on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, on vivrait éternellement. Et il ajoutait par ailleurs, la matière ne peut voyager à la vitesse de la lumière, car dès qu'elle le ferait, elle cesserait tout simplement d'exister. C'est ce qui arriva à Enoch. Enoch, ce personnage hors du commun, avant Noé, donc avant que Dieu avait détruit ce monde de péché épouvantable, eh bien Enoch marchait avec Dieu. Et voilà qu'un jour, il entra carrément dans la lumière. Il ne fut tout simplement plus, car Dieu l'a pris avec lui. Ce fut aussi le cas pour Élie, qui monta dans un char de feu et des chevaux de feu. C'est des chevaux de feu qui l'ont fait entrer dans le jour éternel. Leurs corps furent tout simplement instantanément transfiguré de la forme matérielle à la forme spirituelle. Quand la lumière de Dieu vous illumine pleinement, vous entrez dans une nouvelle dimension où il vous est possible de vraiment de sortir du temps. La matière toute chair cessera d'exister. Donc la matière et toute chair va cesser d'exister dans cet état charnel, alors que nous marchons dans la lumière, comme lui, Jésus-Christ, est dans la lumière. Tout ce qui est charnel disparaîtra à la lumière de sa gloire, mais notre esprit vivra éternellement, parce qu'il n'y a ni dégradation, ni régression, ni mort dans la lumière. Il nous a appelés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. C'est la raison pour laquelle nous avons la vie éternelle. Je répète, tout ce qui est charnel disparaîtra à la lumière de sa gloire. Mais notre esprit vivra éternellement, tout simplement parce qu'il n'y a ni dégradation, ni régression, ni même mort dans la lumière. Il nous a appelés du royaume des ténèbres, il nous a appelés dans son royaume de lumière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la vie éternelle. Le miracle de la lumière a déjà pénétré dans nos esprits et il se transmettra à nos corps. Un de ces jours, nous disparaîtrons de ce monde comme l'ont fait Enoch et Élie. Il ne sera pas laissé un corps que quelqu'un enterrera. La matière glorifiée cessera d'exister en tant que matière, car elle sera ravie, on peut dire ravie et glorifiée, jusque dans l'éternité. Au début de cette étude, je disais que la lumière possède les attributs de Dieu, tels que omnipotence, omniscience et omniprésence. Cela veut dire que la lumière est toute puissante, qu'elle sait tout, car elle révèle tout, et qu'elle est présente partout à la fois. Aucune puissance terrestre ou infernale n'a jamais pu empêcher la lumière de Dieu de briller depuis qu'il l'a appelée à être. Elle est donc toute puissante, pénétrant dans tous les noirs abîmes qui existent, révélant les péchés, même les plus cachés, car il s'agit de la lumière de la connaissance de Dieu. Oui, celle qui révèle, qui transperce le cœur du pécheur, le convainquant ainsi de ses péchés cachés et oubliés. C'est aussi cette même lumière de Dieu qui, lorsqu'elle éclaire l'intelligence de l'esprit de l'homme, révèle les trésors merveilleux et cachés de Dieu, donnant ainsi à l'homme sagesse et connaissance. Aussi longtemps que Dieu existera, la lumière existera également. Elle est présente partout dans ce monde et dans le monde à venir. Même l'enfer ne peut échapper à la lumière de Dieu. Si Dieu le voulait, il pourrait même illuminer l'enfer demain. Ces âmes, hélas, ont préféré les ténèbres à la lumière. Si elles avaient aimé la lumière, elles s'en seraient approchés pendant leur vie sur terre. Il est dit en Saint Jean, au chapitre 3, versets 19 à 21, « Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des œuvres mauvaises haït la lumière et ne vient de ce fait pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière et pour que ses œuvres puissent être manifestées et qu'elles soient faites en Dieu. » Saint Jean chapitre 3 verset 19 à 21. Chers amis, nous avons déjà mentionné différents aspects de la puissance de la lumière. Approfondissons maintenant cela un peu plus. Premièrement, la lumière a le pouvoir de créer, comme nous le voyons au premier chapitre de la Genèse. La lumière est créatrice. Elle est le fondement de toutes les œuvres créées par Dieu et l'univers entier ne fut créé que dans un environnement de lumière. Deuxièmement, la lumière soutient et préserve. Sans la lumière, rien n'existerait plus. La lumière vibre, elle est donc la présence même de Dieu, présence vivante, éternelle, vivifiante, touchant toute sa création. À l'instant même où la lumière cesserait, si elle le pouvait, mais Dieu soit loué, elle ne le peut pas, alors toute espèce de vie cesserait. Et c'est la raison pour laquelle l'enfer sera si terrible. Les ténèbres seront vues et ressenties de surcroît. Le rayonnement de la présence de Dieu sera absent en enfer, ainsi que sa lumière et son amour. Pourtant, les âmes continueront d'exister, car Dieu l'a décrété ainsi. Il est dit, et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. Le seul éclairage en enfer viendra uniquement des vagues enflammées de l'étang de feu, illuminant les cavernes les plus profondes et lançant des éclairs qui obligeront les démons et les âmes dépravées à se cacher encore plus profondément dans les abîmes et dans les cavernes les plus sombres. C'est écrit dans Saint Marc, au chapitre 9, verset 43 et verset 44, ainsi que dans Saint Matthieu, chapitre 8, verset 12. Troisièmement, la lumière renouvelle et révèle. Lorsque la lumière de l'évangile de Jésus-Christ brilla dans nos cœurs, nous avons été renouvelés spirituellement, physiquement et mentalement, et nous avons été vivifiés dans la connaissance de Dieu. Car c'est Dieu, notre Père Céleste, qui a dit dans nos cœurs qu'il reluit, si vous voulez, il illumine carrément nos cœurs, ainsi pour faire luire, illuminer la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Je répète, suivant les versions, c'est légèrement différent, mais c'est la même chose. Ce sont uniquement des, comment vous dites cela en français, je crois, des synonymes qui changent, mais dont le texte veut dire absolument la même chose. Alors je répète, car c'est Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit et qui a relui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Et là aussi, cette lumière, c'est fausse, la lumière éternelle de Dieu qui ne peut jamais être éteinte. Et c'est dans la lumière éternelle de Dieu qui brilla à travers les ténèbres jusque dans nos cœurs, pour nous éclairer de sa gloire et de sa vérité, que nous avons ainsi reçu la révélation de la vérité concernant Jésus-Christ, et nous sommes ainsi renouvelés dans sa connaissance. Oui, nous avons même ce trésor de lumière qui se trouve dans des vases de terre que nous sommes, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et surtout pas de nous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Quatrièmement, la lumière transmet la vie spirituelle. Toute vie naturelle ne peut exister que par la lumière. Ce n'est que par la lumière que peut exister toute vie. Lumière, c'est la lumière définitive, la lumière spirituelle. Et vous pouvez noter Saint Jean chapitre 8 verset 12. Je répète, toute vie naturelle ne peut exister que par la divine lumière. Et ce n'est que par la lumière, j'ajoute divine, que peut exister toute vie spirituelle. Dans Saint Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit, « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore une fois, c'est le mot grec « phos » qui est utilisé ici. paraphraser ce que Jésus est en train de dire, c'est ceci. Je suis, nous dit Jésus-Christ, je suis l'éternel phos, c'est-à-dire l'éternelle lumière de la vie qui ne pourra jamais, jamais être éteinte, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, c'est-à-dire la misère et les ravages qui sont causés par le péché. Il aura donc la lumière, l'éternelle lumière de la vie. C'est ce qu'il recevra dans son âme, son corps et son esprit. Donc, ce mot signifie évidemment la vie. Et Zoé, en grec, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et qui ne peut venir que de qui ? Que de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La différence entre Zoé et Bios, nous allons voir cela de plus près, et j'aimerais attirer votre attention sur deux mots grecs qui signifient la vie, utilisés dans le Nouveau Testament, est traduit tout simplement par la vie. Tout d'abord, Zoé. Ce terme s'applique au principe de la vie, de l'esprit et de l'âme. Il exprime tout ce qu'il y a de plus élevé et de meilleur et que l'on ne peut trouver que en Jésus-Christ. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Vous savez qu'il est dit dans Saint Jean, chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, Zoé. » Cette Zoé, c'est la vie éternelle, c'est la vie abondante que le Seigneur donne à tous les siens. Il s'agit donc de la vie dont parlait Jésus dans Saint Jean, chapitre 10, verset 10, quand il a dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis, c'est vous et c'est moi, chers amis, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette vie, Zoé, est le plus grand bonheur que Dieu puisse nous donner et c'est par Jésus-Christ, la lumière du monde, qu'elle nous est donnée. Ensuite, nous avons le mot « bios », c'est la racine d'où nous vient le mot « biographie ». Il s'applique à la vie physique, à la vie temporelle. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 3. C'est la seule forme de vie ou existence que nous connaissons avant que Christ entre dans nos vies pour nous apporter la vie éternelle. Grâce soit donc rendue à Dieu le Père pour son don inexprimable. Car sans cette vie éternelle, nous étions morts dans nos péchés et dans nos transgressions. Il y a des gens autour de nous qui ont l'air même très vivants, ils font la fête, pas toujours, parce que la vie est dure aujourd'hui, mais il y en a qui peuvent encore faire la fête. Mais tout cela ne représente pas, ou ne veut pas dire qu'ils sont vraiment vivants. Ce sont des morts vivants, espèces de zombies, parce que pourquoi ? Pourquoi sont-ils déjà morts ? Je vais vous le dire. Parce que leur esprit n'est pas vivifié, renouvelé. Christ ne les a pas changés. Alors, ils sont et ils resteront, en quelque sorte, des morts vivants s'il n'y a pas un changement dans la vie avant de mourir. Sans cette vie éternelle, nous étions donc morts dans nos péchés et dans nos transgressions. C'est vraiment la vérité. Nous étions dans les ténèbres et dans la détresse. La mort n'est pas quelque chose à venir un jour ou l'autre, car nous étions déjà morts. Avant que j'aie accepté Jésus-Christ pour mon Sauveur et Seigneur, en ayant reconnu que j'étais perdu, j'étais en quelque sorte un mort-vivant, c'est tout. Mais mon esprit était déjà mort. Il n'y avait que la chair, la carcasse, qui était apparemment vivante, c'est tout. La Bible interpelle ainsi ceux qui se trouvent encore dans cet état. Elle dit une réalité où nous étions nous-mêmes autrefois. Donc la Bible nous dit, elle nous propose surtout de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. J'ai dit, et relève-toi d'entre les morts. Et le Christ luira de sa divine lumière sur toi. Éphésiens chapitre 5, verset 14, selon la version allemande. Regardons un peu ce mot « mort ». Ce mot « mort » vient du grec « nekros ». Cela signifie « mort naturellement et spirituellement ». Avez-vous compris ? Si nous ne sommes pas sauvés, pas régénérés, si nous n'avons pas reçu la nouvelle vie en nous, par Christ, nous sommes naturellement morts, morts spirituellement, c'est-à-dire morts dans le péché, et ainsi nous sommes évidemment séparés de la grâce vivifiante de Dieu. Ou plus distinctement, ayant l'âme qui est séparée de l'accès, ou de, comment est-ce qu'il faut dire cela, de l'action vivifiante de la lumière et de l'esprit divin, et cela de la même manière qu'un cadavre se trouve séparé de celle de la lumière et de l'air matériel, et n'ayant par conséquent aucun espoir de la vie éternelle. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre pour certains, je l'admets, alors je vais répéter cela. Ce mot « mort » qui vient du grec « nekros » signifie une mort naturellement et spirituellement. Donc, c'est la mort dans le péché. Tant que nous sommes les enfants du péché et les enfants des ténèbres, eh bien, nous sommes morts dans le péché, nous sommes séparés. Séparés de quoi ? Séparés de la grâce vivifiante de Dieu, ou si vous voulez distinctement, ayant l'âme qui, elle, est séparée, je dirais l'âme et l'esprit, qui est séparée de l'action vivifiante de la lumière et de l'esprit divin, de la même manière qu'un cadavre est séparé de celle de la lumière et de l'air matériel, et n'ayant par conséquent aucun espoir de la vie éternelle. Aucun espoir. Voilà donc la raison pour laquelle les bonnes œuvres accomplies, même par une personne irrégénérée, ne sont hélas que des œuvres mortes. Je comprends que c'est difficile à croire, mais c'est vrai, car la mort ne peut produire que la mort, selon 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Cinquièmement, la lumière, elle protège. Il est écrit dans Romains, chapitre 13, verset 12, « La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Grâce soit donc rendue à Dieu que cette nuit de labeur arrive bientôt à sa fin pour tous ses rachetés, pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang versé à la croix que Jésus-Christ a versé pour nous sauver. Nous nous apprêtons donc à entrer dans la lumière et à quitter ce monde maudit par le péché. Le jour de la délivrance approche, ça c'est un fait, et nous devons nous préparer, nous devons nous équiper en vue du grand combat final qui attend tous les vainqueurs. On nous ordonne de revêtir les armes de la lumière, mais nous ne pourrons pas revêtir cet équipement indispensable tant que nous sommes encore revêtus d'œuvres des ténèbres. Le mot « arme », c'est en quelque sorte un instrument de guerre, une arme offensive et une armure. L'apôtre Paul nous avertit que le jour vient bientôt où il y aura de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités. Il nous faudra nous approprier les armes de la lumière éternelle afin d'être protégés des ténèbres qui s'accumulent juste avant l'aube et d'être ainsi prêts pour la bataille à venir. Un grand nombre parmi le peuple de Dieu se perdront, hélas, pendant la grande apostasie finale. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas abandonné les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire ils n'auront pas totalement abandonné ces péchés souvent secrets qui les auront menés à l'angoisse, à leur perte également, et de ce fait également, en quelque sorte, à l'esclavage. Mais les armes de lumière, cette lumière vivifiante qui vient de Dieu, ces armes nous ont été données par Jésus-Christ afin de pouvoir échapper à tout mal et ainsi de vivre une vie pure, une vie droite, qui se trouve dans la lumière par Jésus-Christ. Sixièmement, la lumière apporte la communion fraternelle. Il est dit en 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même Jésus est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. » Ce mot communion, koinonia en grec, ce mot signifie participation, communion, don et partage. Il implique donc un échange bénéfique. Il est encore aujourd'hui utilisé en Grèce pour la Sainte Cène. La véritable communion fraternelle, elle est très enrichissante, car elle donne réconfort, force, encouragement, joie et édification. Une édification qui vient d'une marche ensemble, vous et moi, une marche ensemble dans la lumière, avec tous ceux qui partagent la même foi et la même expérience. Donc, si nous marchons dans cette lumière de Christ, ceux qui aiment les ténèbres ne tarderont pas à nous éviter. C'est pas drôle, mais c'est vrai. Ils se déroberont devant la lumière de Christ en nous, qui se trouve en nous. Et nous n'aurons pas besoin de couper les liens, car c'est eux-mêmes qui feront très vite cette séparation. Mais nous devons tout de même veiller à ne pas être blessés personnellement, car ce ne sera pas nous qu'ils rejettent vraiment, mais ils vont rejeter la lumière qui se trouve en nous, qu'ils ne peuvent éteindre et qu'ils ne peuvent donc pas supporter. Et septièmement, la lumière produit forcément la pureté et l'honnêteté. Oui, la lumière de Dieu nous donne de marcher avec circonspection sous son regard. En aucun cas pourrons-nous marcher dans la lumière tout en entretenant des péchés secrets et cachés, car la lumière de Dieu est comme un rayon laser. Cette lumière détruit complètement toute tumeur maligne qui se trouve sous forme de péché en nous. Pour terminer, chers amis, sachez que la lumière de Dieu révélera absolument tout péché d'impureté, d'immoralité, de jalousie, de haine, de manque de pardon. Souvent, nous ne sommes pas capables de pardonner. De l'amertume qui se trouve en nous et d'ambition souvent personnelle. Si nous persistons à garder même que certains de ces péchés, quand la lumière les aura révélés, eh bien nous serons de ceux qui se détournent de la lumière pour devenir des enfants de la nuit. Oui, nous deviendrons les enfants de la nuit, c'est-à-dire de ceux qui se dégagent de la lumière. Il n'est donc pas nécessaire que nous soyons remplis de ténèbres pour être des enfants de ténèbres. Il nous suffit simplement de nous dégager. Un petit peu serait-ce même très peu des vérités fondamentales, de nous écarter de tout ce que la Sainte Parole de Dieu nous demande de faire en restant dans la lumière, en nous écartant un peu par-ci, par-là, de cette vérité de la lumière que le Saint-Esprit fait briller. C'est le Saint-Esprit qui fait briller cette lumière dans nos cœurs et qui nous convainc, vous et moi, de pécher. Alors, restons, chers amis, je vous en prie, restons ensemble dans la lumière. J'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour encourager certains d'entre vous, et aussi, en quelque sorte, comme enseignement. Voici donc ces paroles. Obéissez aux directives du Seigneur, car ils sont comme les barreaux de l'échelle qui doit vous conduire à mieux le servir. Et par-dessus tout, demeurez calme et inébranlable. Pour retrouver ce calme, réfugiez-vous dans le silence aussitôt que vous le perdez, ne fût-ce que pendant un instant. En agissant ainsi, vous accomplirez davantage qu'en vous agitant en besognes diverses pendant toute une longue journée. À tout prix donc, restez calme. Quand vous êtes agité, vous ne pouvez aider personne. Votre Seigneur ne voit pas les choses comme les voit l'homme. Ne vous croyez jamais inférieur à votre tâche, car c'est par son Esprit Saint que tout s'accomplit ici, et cet Esprit Saint peut être reçu par le plus petit et le plus humble d'entre nous. Ce qu'il faut, c'est un canal qui soit vraiment libre. Débarrassez-vous de vous-même et tout sera bien. Faites de tout un sujet de prière, mais tenez-vous-en aux choses essentielles de la vie, et cela jusqu'à ce qu'elle soit bien faite. Le Seigneur veille sur vous. Les forces nécessaires à l'accomplissement de votre tâche quotidienne et de votre besoin de toutes les heures, elles sont donc là. Elles sont toutes prêtes, près de vous. C'est à vous la faute par le péché. Écoutez bien, si vous négligez d'y avoir recours et si vous échouez, je répète, c'est à vous la faute par le péché. Ce n'est donc pas la faute au Seigneur. Si vous négligez d'y avoir recours à l'aide de l'Esprit Saint. Et donc, ne soyons pas étonnés si nous échouons, aussi bien vous que moi. Ça vaut pour tous les deux. Chers amis, nous allons donc prier maintenant, ensemble, et que le Seigneur puisse bénir cette prière. Seigneur, en cette heure solennelle, dans ce grand calme mystérieux qui succède au tumulte d'hier, fais taire en nous les bruits du monde et donne-nous de savoir méditer dans le silence la loi spirituelle que Jésus-Christ nous avait enseignée et qu'il est en train de mettre en pratique. Il dit, si le grain de blé ne meurt ou ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ô Dieu éternel et miséricordieux, tu es le Seigneur de la vie et de la mort. Et dans ta sagesse, tu as soumis notre être physique à la loi de la mort. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu vois et tu sais combien il nous est amer et douloureux de rencontrer le roi des épouvantes et de laisser notre corps retourner à la terre et ainsi de redevenir poussière. Et cependant, nous sommes assurés que selon l'Esprit, nous sommes participants de ton essence et que nous sommes promis à une éternelle vie. Oui, fais-nous trouver notre consolation en Christ Jésus, qui nous précède sur ce chemin, lui dont le corps a été déposé au sépulcre et qui sanctifie nos tombes. Seigneur notre Dieu, qu'à notre dernière heure, nous sachions, comme lui, dans les tortures de la croix, que nous sachions remettre notre esprit entre tes mains paternelles. Prends-nous ensuite, oui, toi, qui es la source de notre vie, qui es la lumière de nos cœurs et de notre esprit et de notre âme, le désiré de nos âmes, notre bien suprême et notre tout, et fais-nous parvenir, ô Seigneur, auprès de toi, où il n'y aura plus de mort, mais où à tout jamais il y aura enfin la vie complète, c'est-à-dire la vie éternelle. Amen. Amen. Et merci, chers amis, pour l'intérêt que vous portez à ces études, pas toujours très faciles, et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuerons cette série, Dieu voulant, demain matin. À bientôt donc, soyez bénis, car Dieu aime tous ceux qui ont été assez humbles d'accepter un jour sa main tendue pour être sauvés. À demain, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.